Bon, deuxième blâme pour le ministre Pierre Fitzgibbon. Point de presse d'urgence hier après-midi, 4 heures.
Ouais, avec le PM.
Oui.
Il m'a dit, quand le PM sort avec le ministre, c'est parce que le ministre est dans le trouble. Moi, je me suis tapé le rapport, là, Paul, le rapport de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet, là, d'un bout à l'autre. Là. Et c'est très accablant pour Fitzgibbon. Et sur la forme et sur le fond. Sur la forme, Pierre Fitzgibbon a été d'une désinvolture et d'un je m'en foutisme absolument renversant. À plusieurs reprises, la commissaire à l'éthique lui dit « Vous remplissez pas les exigences du code d'éthique. » Vous répondez pas à mes questions, vous fournissez pas les documents que je vous demande, il manque des informations à votre dossier. Il écoute rien. Il écoute rien, il fait tout ce qu'il faut pour se mettre dans le trouble, Paul.
C'est.
Je le comprends pas. Elle lui donne avertissement sur avertissement sur avertissement, elle repousse les délais pour lui donner une chance, elle lui donne une chance, deux chances, trois chances. Il écoute rien. C'est comme si c'est lui qui avait, tu sais, comme s'il si avait décidé, c'est moi qui va décider comment est-ce qu'il s'applique le code d'éthique. On dirait que c'est ça son attitude. À un moment donné, il lui dit à la commissaire, il dit, je suis furieux de vos méthodes de travail. Je suis pas content des conversations que vous avez eues avec certaines personnes. À un moment donné, il dit, ça me dérange pas si vous me blâmez. Il répète ça une autre fois. Il dit, je suis prêt à recevoir un blâme. Amenez-les votre blâme. Ah ouais, ouais, amène-les ton blâme. Non, tu sais, tu te dis, ben voyons donc. T'es en politique, bonhomme. Il y a des règles qui s'appliquent. Respecte les règles. Si tu veux pas les respecter, retourne chez vous. Quand t'as fait le saut, tu savais qu'il y avait des règles. Tu savais qu'il y avait des institutions comme la commissaire à l'éthique. Tu savais qu'il y avait un code d'éthique. Et puis là, à un moment donné... Elle lui dit, regardez, même si je vous blâme, là, parce qu'il dit, ah ouais, amène-les ton blâme. Elle dit, même si je vous blâme, ça ne règle pas votre problème. Vous ne pouvez pas conserver vos intérêts dans l'entreprise qu'elle qualifie, qu'elle appelle l'entreprise A. Elle dit, vous ne pouvez pas conserver vos intérêts dans l'entreprise A tant que l'entreprise fait des marchés avec le gouvernement. Parce que l'entreprise A, dont il est actionnaire, a obtenu des prêts d'Investissement Québec avant qu'il fasse le saut en politique. Bon. Et là, on arrive au fond des choses, Paul. La commissaire, elle lui dit, si vous ne vendez pas vos intérêts dans l'entreprise A, elle dit, soit vous vendez vos intérêts dans l'entreprise A, soit l'entreprise cesse de faire affaire avec l'État. Et là, Fitzgibbon lui dit, oui, mais l'entreprise A, elle n'est pas cotée en bourse. Puis il dit, il n'y en a pas d'acheteur pour ce genre de participation dans une entreprise comme celle-là. Il dit, il n'y en a pas d'acheteur. Fait que je suis pris avec mes actions. Et là, honnêtement, Paul, la situation telle qu'elle est présentement, c'est que Fitzgibbon, 2 ans après avoir été assermenté au Conseil des ministres, est toujours en manquement du code d'éthique. Et il doit absolument trouver une solution.
Sinon, là, j'ai compris.
Sinon, il va être obligé de partir, Paul, parce qu'il doit trouver quelqu'un qui va racheter ses parts dans la fameuse entreprise. Sinon, il va recevoir un troisième blâme. Puis là, le troisième blâme, Paul, je veux dire, c'est comme au baseball, là, 3 prises, t'es mort, là. Fait que là, puis je dis pas que c'est facile, sa situation, Paul. Quand il dit, il y en a pas d'acheteur, ou en tout cas, c'est très difficile de vendre des actions comme celles que j'ai dans cette entreprise-là, il a raison. La PDG de l'entreprise le dit, ça. Elle dit, on les rachète pas, les actions. Puis, elle dit, pour les vendre à quelqu'un d'autre, là, il faut être un investisseur qualifié. Je conçois très bien que la situation dans laquelle se trouve Fitzgibbon n'est pas facile, Paul, mais il n'y a pas le choix. Il faut qu'il respecte le code d'éthique. Il faut qu'il trouve une façon de vendre sa participation.
Oui, j'ai écouté ça hier avec, comment je te dirais, mais en même temps, tu le savais. Là. Ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ça les règles, tu comprends? Puis rappelons-nous la saga de Pelado hier. Je sais que François Legault n'a pas aimé ça, mais c'était ça pareil, là.
Absolument.
Tu sais, quand on lui disait, là, il n'était même pas ministre, là, il était chef de parti.
Exact.
Puis on disait, ben tu peux pas garder le contrôle sur Québécois.
Non,
puis,
c'est ça.
Mais dis-moi, je ne vendrai jamais.
Mais Paul...
C'est mon héritage, là, puis c'est l'héritage de mes enfants. Je ne vendrai jamais à ma compagnie.
Puis lui éventuellement, s'il avait été élu aux élections, Pierre-Carles, il aurait fallu qu'il choisisse entre le poste de premier ministre et son contrôle de l'entreprise, sa propriété de Québécois.
Parce que tu peux pas te dire, je donne ça à une fiducie sans droit de regard en leur disant en partant de pas vendre.
Voilà. Et là, on comprend la fin du rapport, Paul. On comprend la fin du rapport que dans le fond, là, Fitzgibbon, s'il vendait, il pourrait vendre. Ça serait compliqué, mais il pourrait vendre, mais il perdrait beaucoup d'argent. À un moment donné, il dit à la commissaire, il dit, je peux pas accepter que le code m'oblige à vendre et à sacrifier une partie de mon fonds de pension. Tu sais, c'est la participation qu'il a dans cette entreprise-là, c'est son fonds de pension à ses yeux. Il dit, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation que la fonction de ministre implique des sacrifices financiers injustes et inéquitables de cette nature. La question qui se pose, Paul, là, et la question à laquelle Pierre Fitzgibbon est confronté maintenant, c'est, est-il prêt à payer le prix financier pour rester en politique? Il faut qu'il réponde à cette question maintenant.
On va lui parler tantôt, fait que ça tombe bien.
Bon, voilà, c'est ça.
Bon, il y a 6 ex-premiers ministres qui signent ce matin une lettre ouverte qui est une lettre d'appui pour modifier, solidifier et renforcer la loi 101.
Écoute, moi, Paul, je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas d'une lettre ouverte qui avait été signée par tous les ex-premiers ministres vivants. C'est peut-être déjà arrivé, là, mais moi, je ne m'en souviens pas. Que tous les ex-premiers ministres vivants décident de signer en même temps un même document, dans ce cas-ci en faveur du renforcement de la loi 101 et en appui à la fameuse motion de l'Assemblée nationale pour que la loi 101 s'applique aux entreprises sous compétence fédérale, là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, Jean Charest, Philippe Couillard, Daniel Johnson, 3 anciens premiers ministres libéraux, Pauline Marois, Lucien Bouchard, Pierre-Marc Johnson, 3 anciens premiers ministres péquistes, donc qui signent cette même lettre, très, très courte. La conclusion, les fonctions que nous avons occupées nous ont placés au cœur de la promotion et de la défense de la francophonie en Amérique, une responsabilité unique, une situation fragile qui exigeront de tous les élus une vigilance, dis-je, de tous les instants. Bon, c'est Gilles Duceppe qui est à l'origine de cette lettre-là. Je t'ai raconté lundi, hein?
Oui, la bisbille entre péquistes et bloquistes.
Il n'était pas content que Paul Saint-Pierre Plamondon n'ait pas signé la lettre ouverte de Simon Jolin-Barrette.
Mais entre toi et moi, là, M. Saint-Pierre Plamondon, il a l'air un peu fou quand les premiers ministres sortent comme ça, signent une lettre, alors que lui, il ne voulait pas signer une lettre.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mais je comprends pourquoi il ne l'a pas fait. Il ne voulait pas comme pencher du bord de la CAQ. Sauf qu'en bout de ligne, ça a l'air un peu bizarre. Là.
Ça, c'est comme le boomerang qui lui revient un peu en pleine figure.
Gilles Duceppe a sorti de l'artillerie.
Et voilà, Gilles Duceppe a dit OK. Parce qu'en ne signant pas, l'analyse que fait Gilles Duceppe, je pense qu'il a raison, c'est qu'en ne signant pas, Paul Saint-Pierre Plamondon a amené les libéraux et les solidaires à ne pas signer eux non plus la lettre ouverte de Jolin Barrette. Fait que voyant ça, il a dit OK, comment est-ce que je pourrais refaire l'unité autour de cette idée de renforcer la loi 101 et de l'appliquer aux entreprises de compétence fédérale? Fait que là, il a contacté Mme Marois. Je lui ai parlé à Mme Marois. Mme Marois a dit J'embarque. Parce que Gilles, il dit on va essayer de faire signer tous les premiers ministres. Fait que Mme Marois a dit j'embarque. Elle a dit je vais appeler Lucien. Elle a appelé Lucien. Lucien a dit j'embarque. Là, Gilles Duceppe a parlé à Jean Charest. Il a appelé Jean Charest. Jean Charest a dit garde, j'embarque. Je vais appeler Daniel Johnson. Charest a appelé Johnson. Daniel Johnson a appelé Philippe Couillard pour le convaincre. Philippe Couillard, c'était le dernier, là. Il a apporté un certain nombre de petits changements au niveau du style, tout ça. Et puis, Gilles Duceppe, entre-temps, avait appelé Pierre-Marc Johnson, qui avait donné son accord. Fait que finalement, les 6 ont dit, on y va. On la signe, tout le monde ensemble, puis c'est publié ce matin. Par ailleurs, j'attire votre attention sur la lettre également signée par le président de la CSN, Jacques Létourneau, la présidente de la CSQ, Sonia Etier, le président de la CSD, Luc Vachon, puis le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc. Eux autres aussi signent une lettre commune dans Le Devoir pour en appeler au renforcement de la Charte de la langue française. Fait que c'est le retour à l'unité. C'est un moment de grâce, mon cher Paul. Et on verra bien maintenant si Justin Trudeau va finir par bouger.
Et on verra aussi ce que le projet de loi de M. Jolin-Barrette
va contenir. Et par ailleurs, j'attire ton attention sur le fait qu'hier soir, à 21h30, le projet de loi, l'étude, article par article du projet de loi 66 sur l'accélération des infrastructures, projet de loi piloté par Mme Lebel, Sonia Lebel, eh bien, les oppositions ont finalement accepté de le laisser sortir de commission. Bon, comme tu sais, il y a eu un petit marchandage, parce que ce soir, Monsieur Arruda sera entendu en commission parlementaire.
Ben oui.
Ça faisait partie de la négo. Tout est dans tout, comme avait dit Jolin Barrette. Fait que vous me laissez sortir le 66, et puis moi, je vous donne Arruda. Et puis, ça a tout l'air que ça a fonctionné. C'est quand même très bien. Le projet de loi 66 qui va être adopté à la réglo, de manière réglo, sans recourir au bâillon. Honnêtement, Mme Lebel a bien travaillé là-dedans. Et les oppositions aussi ont fait preuve d'ouverture et de collaboration. Fait que... Voilà, mon cher Paul.
Merci.
C'est toute une... Tu sais que c'est la fin de session à Québec hein, cette semaine, puis c'est aussi la dernière semaine à Ottawa. Le projet de loi sur les soins de fin de vie à Ottawa, là, surveillez ça, là, les conservateurs. Là.
Ils ont choisi la date pour faire ça, en tout cas. En pleine pandémie, en pleine période du temps des fêtes, en pleine période de noirceur, on est dans la fin de vie. C'est-à-dire que...
Oui, mais les vieux démons des conservateurs les rattrapent.
Ça, on en reparlera.
Dans le tournant.
Merci. 7h12. Situation sur Descaries.